Nous retrouvons à présent l'émission Parcours, présentée par Virginia Crespo.
Bonjour. Parcours vous propose aujourd'hui une heure de rencontre avec un académicien de l'Académie des sciences morales et politiques. Aujourd'hui, François Théré. François Théré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entré à l'Académie le 11 décembre 1995 dans la section législation, droit public et jurisprudence, et ce en toute logique, puisque agrégé de droit privé, docteur en droit et licencié ès lettres, vous avez été d'abord avocat à la Cour d'appel de Paris, ce fut de 1954 à 1957. Quels souvenirs gardez-vous de ces toutes premières responsabilités ?
Les responsabilités du barreau de Paris à l'époque. J'en garde un souvenir assez différent de ce que je vois aujourd'hui au barreau de Paris. Mon collègue, confrère et ami Jean-Denis Bredin a publié récemment un livre sur ce que c'était le barreau il y a 50 ans. Il est parfaitement fidèle à cette époque et je ne reconnais plus aujourd'hui cette vision encore assez passéiste à l'époque, mais des grands maîtres du barreau qui ont été un peu supplantés dans une démarche beaucoup plus américanisée et techniciser du barreau et des relations entre le barreau et la justice. L'œuvre des bâtonniers, des grands bâtonniers, n'est plus ce qu'elle était, à mon avis.
Nostalgie ?
Nostalgie, non, mais une vision beaucoup plus difficile de cette profession. La profession, c'est pendant les 30 Glorieuses, c'était quand même peu après la guerre, était en essor et elle n'avait pas à affronter tous les problèmes qu'elle a affrontés depuis. Et il faut dire que l'afflux du nombre d'avocats, peut-être pas tellement supérieur aux besoins de la France, c'est une autre affaire, mais l'afflux du nombre des avocats, le fait que bien près de la moitié des avocats au barreau de Paris ne gagnent très mal leur vie, que c'est un métier de plus en plus dur, qu'il est concurrencé aussi par des cabinets étrangers, que l'Europe n'a pas toujours facilité la tâche des juristes français, tout cela peut exprimer un sentiment d'inquiétude, surtout face à des propositions de directives qui émeuvent les professions libérales.
Inquiétude, dit problème, donc les solutions ?
Les solutions pourraient être d'abord d'endoctriner davantage le ministère des Finances, d'appeler à enseigner le droit à l'École nationale d'administration qui nous gouverne, à donner cette place aux juristes qui n'est plus celle qu'elle était autrefois et, je dirais plus, qui n'est plus du tout celle qui est la leur à l'étranger dans les pays les plus voisins du monde. Les juristes, voyez bien d'ailleurs récemment un livre d'un ancien ministre, M. Maire, qui nous dit « Vous les politiques », s'adresse-t-il aux politiques, et c'est au nom des technocrates. Mais quand le juriste regarde l'œuvre des non-politiques ou des technocrates et des politiques technocrates ou des technocrates non-politiques, tout cela... Cela vaut la même chose. Les lois actuelles sont très mauvaises, techniquement très mauvaises. Les juristes ne sont pas véritablement associés à leur élaboration, mais il est vrai que, au fond, maintenant, vu l'afflux des lois, le problème n'est plus de savoir si on les applique. Le problème est de savoir si on les promulgue. Il faut bien distinguer une loi qu'on promulgue, et puis ensuite on l'applique ou on ne l'applique pas. C'est notre temps.
Vous dites ça avec beaucoup d'humour.
Je dis noir. Parce que ça finira par changer. Ce n'est pas vous les politiques, ni vous les technocrates, mais à mon avis, ce qu'il faudrait dire, c'est nous les juristes. Et vous savez, le droit actuel, j'essaye de le dire un peu dans quelques livres, je l'ai soutenu il y a quelques jours au Sénat, dans un colloque qui avait pour objet la loi. Au fond, ce qu'on enseigne à nos étudiants depuis des années, c'était traditionnel depuis des siècles, c'est qu'il y a des sources de droit qui sont la loi, la jurisprudence, en somme des décisions rendues par les tribunaux, et puis la coutume. Mais maintenant, c'est plus ça, les sources du droit, elles sont taries ou elles sont polluées. Les trois sources du droit apparaissent comme étant d'abord la colère des victimes. Cela provoque tout de suite des mouvements et donc on change le droit, à défaut de changer le fait. Deuxièmement, les tumultes de la rue, nous en voyons quelque chose. Et troisièmement, c'est les erreurs des journalistes. Je veux dire que j'ai souvenir avoir écrit un certain nombre d'articles et d'avoir demandé des informations, même des documents fondamentaux pour pouvoir corriger un article sur le marbre. On m'a regardé comme si j'étais un curieux parce que je voulais avoir entre les mains le traité de Rome. C'est pas, ce n'est pas une... J'ai cru que je demandais une lecture pornographique, en fait.
Alors, après ces premières expériences, c'est vers l'enseignement que vous pousse votre vocation. Alors, expliquez-nous pourquoi. Était-ce une tradition familiale que le choix de l'enseignement? Pourquoi cette vocation, dans le propre sens du mot vocare, à Trappelea?
Oui, le départ n'est pas tellement une décision. Elle est l'effet d'un rejet de certaines orientations et deuxièmement, c'est l'effet du hasard. Alors, le rejet, c'était que je ne voulais pas suivre des traditions familiales qui, d'un côté, m'auraient orienté de père en fils dans l'inspection des finances, ou alors, d'un autre côté, c'était plutôt Polytechnique ou Saint-Cyr. Ni l'un ni l'autre de ces choix ne me plaisait, et je voulais surtout préserver ma liberté. Et par conséquent, il n'y avait pas 36 choix possibles. C'était une vie universitaire. Mais au départ, l'orientation était plutôt vers la philosophie. Et d'ailleurs, j'avais fait passer quelque temps en Hippocagne, au lycée Henri IV. Mais cette visée ne me correspondait pas, puisque je voulais faire de la philosophie et non pas du thème latin et de la version du thème latin, de la version grecque, etc. C'était trop pour moi. Et alors, j'ai tout de suite bifurqué, mais à l'époque, en traversant la place du Panthéon, je me suis inscrit en droit, mais aussi en lettres à la Sorbonne. Et je fais un double cursus avec une intention qui était plutôt pas très dessinée encore et qui contredit ce que je disais il y a un instant sur l'école nationale d'administration. Et puis le déclic s'est fait en un mois. En un mois et demi, j'ai compris que c'était le droit. Et c'est cette orientation que j'ai suivie, d'autant plus que j'avais un professeur, un de mes professeurs, le principal professeur de droit civil qui s'appelait Lebal, m'a dit au bout de 2 mois que mon choix devait être fait et que je devrais passer l'agrégation. Alors, le reste s'en est suivi. J'ai continué quand même, je me suis inscrit au barreau, je me suis présenté à l'agrégation, et le reste s'en est suivi. Mais alors, la suite a démontré que je voulais aussi voyager. Et après l'agrégation, j'ai été me promener.
Alors, avant d'envisager ces grandes promenades, remontons encore un peu plus en amont de ces années déterminantes, ces années de choix. Dans quelle région de France ou du monde êtes-vous né?
Je suis né à Paris, de parents nés à Paris, de grands-parents qui pour la moitié étaient nés à Paris. Et qui avaient des attaches. D'un côté de ma mère, c'était la Bretagne, de l'autre côté de mon père, c'était les Vosges. Mais j'étais l'enfant de deux Parisiens vraiment viscéraux, de grands-parents qui l'étaient peut-être moins, mais quand même toute ma famille paternelle et maternelle est totalement parisienne. Et j'ai toujours adoré Paris. J'adore toujours Paris en ce moment. J'ai sillonné Paris dans une période qui n'était pas commode, c'était celle de l'occupation, en bicyclette, on se prenait partout en bicyclette. Et j'ai gardé pour Paris une passion qui n'a cessé de croître. Je crois qu'elle est aussi importante que celle que j'ai pour Venise. Chaque fois que je vais à Venise, une fois de plus, j'aime encore plus Venise. Mais Paris, les quartiers de Paris, si l'université m'avait évacué pour des raisons diverses et variées, bon, au fond, être chauffeur de taxi à Paris, ça ne me déplairait pas fondamentalement.
Donc, plutôt un attachement urbain.
Au théâtre, au cinéma, au musée, toutes choses que l'on ne retrouve pas partout. J'adore Rome, mais il n'y a pas d'opéra. Voilà.
Quel genre de petit garçon étiez-vous, et puis ensuite l'adolescent que vous avez été? Turbulent?
J'étais
solitaire?
J'ai toujours été un enfant gâté. Et par tradition, par atavisme familial ou par hérédité, assez colérique.
Dans une grande fratrie, une grande famille
ou... Non, mais j'avais 2 sœurs et j'étais le dernier, j'étais le petit dernier. Puis j'avais des cousins à droite et à gauche, j'avais une 20aine de cousins dans la ligne de mon père. J'étais le petit dernier, Je travaillais bien dans le primaire, j'ai été un petit peu affecté par la guerre à l'époque charnière, et puis j'obtenais vraiment beaucoup de choses que je souhaitais. Alors, sauf la discipline.
Sauf la discipline.
Ah, je déteste la discipline, je déteste l'autorité, mais tout autant celle que j'exerce que celle que je subis. Alors ça m'a donné lieu à l'éviction d'une troupe de scouts, à des semaines de corvée au régiment, enfin, etc.
C'était contre l'ordre établi ?
C'était assez contre l'ordre établi, mais pas... Oui, de gauche à 20 ans, bien sûr, mais c'était bien avant 20 ans... J'ai souvenir d'avoir été évacué d'une troupe de scouts en 1943.
Vous vous souvenez
Alors,
le motif?
La raison est très claire, c'est que j'en avais assez des badges de toutes les couleurs qu'on avait, j'en avais tout plein, et j'ai un beau jour tout enlevé à un camp de scouts pour développer, et c'était pendant la guerre, pour me couvrir de badges rouges, pour lever le poing et dire debout les damnés de la terre. Ça n'a pas plu du tout, j'ai été vidé.
Vous avez choisi, pour cette première pause musicale, de faire écouter aux auditeurs de Canal Academy un extrait de la 9e symphonie du grand Beethoven. Nous allons l'écouter dans une interprétation du grand orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Karajan. Pourquoi ce choix en deux mots ?
Parce que j'ai cherché, quand vous m'avez demandé, j'ai choisi quand même, a priori, de la musique classique. Je suis un fanatique de cette musique. Et il est vrai que j'ai bien hésité, puisque je suis toujours fourré à l'opéra pour aller voir les opéras de Verdi, Puccini et d'autres encore. Mais finalement, puisque c'était un morceau de musique, j'ai pas choisi de morceau lyrique, proprement dit. Et j'ai hésité, bien sûr, entre un concerto de Mozart et l'adagio de la 9e. C'est très banal comme choix, c'est très classique, mais c'est encore... j'ai hésité beaucoup, parce qu'il y a aussi des passages célèbres, ultra célèbres de Mahler, que j'aurais peut-être choisi aussi.
Pour une prochaine fois.
Voilà.
Nous écoutons Beethoven. François Théré, de l'Académie des sciences morales et politiques, est aujourd'hui l'invité de l'émission Parcours, diffusée sur Canal Académie. François Théré, quels étaient vos héros, enfants ou adolescents ?
Oh, c'était les Trois Mousquetaires, bien entendu. C'était l'auteur que j'ai le plus lu quand j'étais... Mais quand j'étais encore plus jeune, c'était une publication qu'on ne revoit plus beaucoup maintenant, qu'on réédite plus. J'étais un fanatique des Péniclés et des Trois Mousquetaires. Voilà. C'était mes héros de la jeunesse.
Quelles étaient vos passions de jeunesse?
Les timbres, les collections, les collectionner en soi. Collectionner. Vous voyez que vous parliez de ma passion pour Paris. Eh bien, j'ai souvenir du temps où les tickets de métro des diverses stations de Paris étaient imprimés au nom de la station et n'étaient pas uniformes. Et une de mes grandes passions a été, j'utilisais même mes économies, à collectionner tous les tickets de métro de toutes les stations de Paris.
Vous les avez conservés encore ?
Je les ai. Ça a disparu pendant la guerre, je ne sais plus où c'est. Mais après la guerre, plutôt. Et donc, je connaissais les lignes par cœur à l'époque. Enfin, je connais bien la 9, la 5, la 6, les grandes, là. Mais ça coûtait cher parce qu'il fallait ressortir du métro pour acheter un ticket de la station dite. Maintenant, c'est fini.
Vous évoquiez la guerre. Quelles quelles images, quels souvenirs se raccrochent à cette période?
Ah, les souvenirs, d'abord, au 40-41, je n'étais pas là, mais nous sommes revenus en 41. Les souvenirs de la guerre sont très curieux. Ils sont marqués, bien sûr, par l'occupation, l'occupant. D'autant plus que j'habitais, mes parents habitaient rue Boissière, près de la Nuclébert, donc près du Majestic. Et donc nous avions, de ce point de vue, la pression de l'armée allemande, les détachements qui défilaient tous les matins avec leurs fifres et leurs tambours qui allaient de la Muette jusqu'à l'hôtel de ville. Alors tout cela, ça existait, et existait aussi les couvre-feux, les difficultés qu'il y avait. Au demeurant, ce qui a été frappant, c'est surtout le froid plus que la faim. On a eu très froid pendant les hivers de la guerre. On peut en reparler aujourd'hui, mais c'était pas mal. Aujourd'hui, ben non, pas, oui. Plus encore froid que faim, dans la mesure où des membres de la famille nous alimentaient tout de même. D'un autre côté, nous avons eu la chance, mes camarades et moi, d'avoir des professeurs qui nous ont passionnés au lycée Janson de Sailly, et notamment Paul Guth, qui a été écrivain, qui s'est beaucoup détaché de l'enseignement. Mais il faut reconnaître que l'activité de théâtre et de cinéma, l'activité artistique pendant l'occupation a été sans doute le dérivatif, mais il y a eu de grandes créations. Pendant l'occupation, au théâtre, j'étais tout le temps fourré à la Comédie Française, bien sûr, au Poulailler, ou parfois mieux, parce qu'on m'avait offert un abonnement. Le petit chéri avait eu son abonnement. Voilà.
Mais cette période de construction, cette période de l'enfance, de l'adolescence, y a-t-il une phrase, une idée transmise soit par votre famille, soit par votre entourage, soit par un professeur, ou lue dans un livre, et que vous avez faite vôtre par la suite, et qui continue de vous accompagner, et que vous aimeriez transmettre aux générations futures?
Une idée, une phrase de mon père. Une phrase de mon père, mais j'étais influencé autant par mes deux parents, père et mère, c'était différent. Mais cette phrase en disant, c'était d'ailleurs très orgueilleux aussi, ce que on m'inculquait. Tu es le plus fort, tu es le plus intelligent. Alors, dans les contestations et les disputes, tu cèdes. Et j'espère m'en être inspiré, mais pas toujours. Car parfois, Le goût absolument irréductible de la plaisanterie et de l'humour fait qu'on m'a toujours dit que en fait, moi-même, j'étais un mélange d'une très grande maturité très jeune et puis en fait d'un esprit d'enfance d'immature que je n'ai jamais perdu.
Excellent mélange.
Excellent et je ne tiens pas du tout quand on me demande mon âge, je dis j'ai 12 ans d'âge mental. Voilà.
Alors, lorsque votre choix a été fait par rapport à l'enseignement, vous obtenez un premier travail d'enseignant à Strasbourg. Vous êtes chargé de cours à la faculté de droit pendant 2 ans. Ça a été de 1955 à 1957. Comment vivez-vous cette première expérience? Déçu, heureux, le contact avec les étudiants? Est-ce que vous attendiez vos cours avec beaucoup d'impatience? Étiez-vous mort de trac, angoissé avant d'entrer dans l'amphi?
Je n'ai jamais... bien sûr, on est toujours... on a de l'appréhension avant de parler, mais j'avais 25 ans, donc j'étais pas tellement plus vieux que de 5 ans que mes étudiants. Et donc, c'était pas le problème. Je ne savais pas si j'aimais enseigner. C'est en enseignant que j'ai vraiment appris à enseigner. Parce que je pense que précédemment, j'étais un petit peu un orateur très monotone. Mais ça ne s'apprend pas. Ça s'apprend sur le terrain, l'enseignement. Alors, j'étais à Strasbourg. Mon problème, c'est que Strasbourg, j'habitais Paris. Parce que je ne savais pas encore où je me retrouverais nommé 2 ans après l'agrégation. Car je préparais l'agrégation, même j'avais échoué une première fois. Et alors, je vivais à Paris. Et je n'ai jamais eu envie, j'étais marié, je n'ai jamais eu envie de m'installer à Strasbourg. Oh là, vous rendez compte? Non, c'est très beau Strasbourg, c'est une ville magnifique. Mais le soir, oh non.
Paris vous manquait?
Oui, bah alors je faisais la navette, quoi. Je faisais 5 heures et quart de train le lundi matin, puis je revenais le mardi soir pour le train de nuit. Et puis c'était très bien comme ça.
Mais après Strasbourg, ce fut le Cambodge.
Alors là, j'ai pas pu habiter Paris. Ça, c'était faire toutes les semaines Paris, Phnom Penh, c'était pas possible. Alors j'ai choisi là. Ce sont les deux seules années de ma vie durant lesquelles je ne suis pas venu à Paris plus de 5 mois par an, parce qu'il y avait quand même des périodes de congé d'été pour les universitaires. Attention, ce sont des intermittents du spectacle, n'oublions pas. Et alors, ça m'a permis de sillonner le vaste monde, de faire 2 fois le tour du monde, d'aller en Chine, au Japon, à Hong Kong. Mais c'était en 57-59, ça. Oui, 57-59, après l'agrégation, j'ai même été passionné par la civilisation orientale. Et au fond, j'ai gardé cette mentalité d'ancien d'Indochine. Enfin, ils étaient indépendants, mais c'était à 27 ans quelque chose qui a été passionnant.
Et le contact avec les étudiants là-bas?
Merveilleux. Je crois que vraiment, parmi les étudiants que j'ai eus dans mon existence, les étudiants vietnamiens étaient sans doute, quant à leur niveau, les plus intelligents que j'ai jamais eus. Enfin, dans leur faculté d'assimilation, pas de création, mais d'assimilation du droit, c'était supersonique.
Et la découverte d'une nouvelle culture.
Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Et me rendant compte que l'Europe, c'était bien l'européanisme, mais ça ne suffisait pas pour le droit et qu'il fallait voir un petit peu les religions. Et d'ailleurs, quand je suis revenu du Cambodge, mon idée, c'était d'approfondir la connaissance du bouddhisme et des religions orientales sur le droit, leur influence sur le droit. Le droit étant devenu vraiment l'épine dorsale de ma réflexion.
C'est un travail que vous avez pu mener ?
Non, parce que 3 mois après mon retour, tout d'un coup, la vie a changé un peu. Et Jean Foyer, qui est de notre académie, que j'avais connu à l'agrégation, m'a demandé de faire partie de son cabinet ministériel. Et alors j'ai été conseiller technique à son cabinet de 1960 à 1967.
Jean Foyer qui a donc été ministre de la Coopération, puis voilà. Garde des Sceaux de 1960 à 1962, puis de 62 à 67.
C'est ça. Alors de 60 à 62, ministre d'abord secrétaire d'État en relation avec les États de la Communauté, c'est un titre long, puis ministre de la Coopération. Alors cette période 60-62, ça a été la période de l'indépendance des États africains et malgaches. Et alors, c'était une nouveauté. Je continuais à enseigner. Je tenais à garder l'enseignement. C'est là que la fibre d'enseignant s'est renforcée encore, ou renforcée ou maintenue. Et puis alors, ça a été la substitution de la vision de l'Afrique à la vision de l'Asie. Et la prévalence de l'influence de l'Asie est bien plus forte et notable par rapport à l'Afrique. J'ai trouvé que la civilisation... Il y avait une chute pour moi. Enfin, j'étais habitué à l'Asie, à l'Inde, où j'avais été pendant un mois. Je connaissais bien. Et donc l'Afrique m'a appris beaucoup. Le Tchad, Madagascar, la Côte d'Ivoire. Bon. Et puis les accords de coopération. Et puis alors, en 1962, ça a été la chancellerie du ministère de la Justice.
Alors justement, quel souvenir gardez-vous de cette fonction politique ? C'était sous la présidence donc du général de Gaulle ?
Ah oui, ça a été la grande période. C'était les débuts de la Ve République, c'est-à-dire ce que certains appellent la période consulaire. Ça a été la République consulaire.
Avez-vous vécu justement la mise en place de cette nouvelle République ?
Passionnant. La mise en place et puis alors surtout le développement, le déroulement. Dans le cadre, bien entendu, des activités au ministère de la Justice. Ça nous convenait comme un gant, ça m'allait comme un gant, ça a été une expérience unique. Étant observé que le début n'a pas été drôle, car il y a eu quand même la période de l'OAS, où la période de l'équipe qui était en place à la chancellerie se trouvait en porte-à-faux, ou plus qu'en porte-à-faux, menacée, n'est-ce pas ? Et puis alors, ça s'est arrangé dans les mois qui ont suivi, et puis toute une activité législative a été menée par Jean Foyer, qui est à ma connaissance, c'est pas parce que j'étais à son cabinet, et c'est un ami de toujours, mais je pense que quand même c'est le plus grand garde des Sceaux de la Ve République. Jusque-là, nous avons travaillé ensemble, et nous avons... amorcé tout un travail de réforme du droit de la famille. et de lois qui sont devenues des modèles, qui ont besoin d'être modifiées parce que le rythme de la vie sociale et des besoins sociaux et économiques va tellement vite et qu'il faut l'adapter, mais il y a eu des travaux considérables qui demeurent des bases fondamentales de notre époque.
Votre relation avec le général de Gaulle ?
Moi, je ne l'ai pas pratiqué directement. Si, quand même. Quand même, je l'ai rencontré un jour. Plus exactement, il y avait une réception à la chancellerie, à l'Élysée, parce qu'on recevait des chefs d'État africains et malgaches, et puis j'étais là avec ma femme, puis on voyait le général qui se propulsait dans ses salons un petit peu. Alors, on s'est dit avec ma femme, allez, on y va, on va lui parler. Et alors, le fait que j'avais deux raisons d'accrocher son attention, d'appeler son attention, c'était premièrement que j'étais professeur, j'avais quitté Strasbourg, j'étais professeur à Lille. J'étais revenu de Cambodge, puis j'avais été à Strasbourg, puis j'étais à Lille, professeur à Lille. Et deuxièmement, que j'ai saisi l'occasion parce que une des sœurs de mon père était à Londres. En 1940, est allée à Londres en 1944, et a été le commandant des AFAT, l'armée féminine de l'armée de terre. Et de Gaulle en parle dans ses mémoires, de la création. Elle s'appelait de mon nom, j'ai le même nom, elle s'appelait Hélène Terray. Alors j'en ai parlé. Et j'ai eu une conversation étonnante, parce que il était d'une immense courtoisie avec ma femme, et il m'a dit, votre tante, elle a fait ce qu'il fallait, quand il fallait, etc. Et de me dire ensuite, je l'ai aperçue, je l'ai vue quand même, il y a quelques jours, j'étais étonné parce que je savais que sa vie était mauvaise, à l'enterrement aux Invalides de cet amiral au Boisneau, et j'aurais bien aimé lui parler, mais avec ce service d'ordre. Or voilà, un homme qui ne savait pas que j'allais lui parler, et qui tout de suite a rétabli, puis ensuite ça s'est terminé avec des propos de courtoisie, il me demandait ce que je faisais, puis il a demandé à ma femme si elle avait des enfants, mais en lui disant ils doivent être très jeunes pour le... C'est un souvenir quand même, plus des formules que je savais, parce qu'elles m'étaient rapportées par Jean Foyer au Conseil des ministres, et par des récits aussi de son aptitude à tout comprendre, et à comprendre aussi les choses de droit, qui n'étaient pas pour lui... fondamentale et première.
Après l'évocation du général de Gaulle, une autre page musicale avec un autre grand homme, Beethoven, la 9e symphonie. François Terray, parallèlement à votre travail d'enseignant, à vos responsabilités dans la fonction publique, vous avez été membre de la commission de réforme du Code de procédure civile, et cela pendant 10 ans, de 1965 à 1975. En quoi consistait votre responsabilité et ce travail ?
La réforme était importante car au fond, L'on peut dire que l'époque napoléonienne n'avait pas été tellement glorieuse, hormis le code civil, dans les autres codes. En tout cas, le code de commerce et le code de procédure civile. Pendant des années, on s'est rendu compte qu'il fallait, quand même, à partir des années 1930, moderniser la matière. Mais cela avait été difficile et on se trouvait encore confronté à des retards, à des difficultés, à des dysfonctionnements de la justice qui ont expliqué qu'à partir de 1965, on s'est attelé à un certain nombre de processualistes. Et puis Jean Foyer était professeur de procédure civile au départ et quelques autres. Nous avons entamé une démarche de réforme pan par pan, morceau par morceau du code de procédure civile, en l'expérimentant dans certaines de ses dispositions pour aboutir à ce code de 1975. Il est vrai que déjà, depuis 1967, je n'étais plus au cabinet du garde des Sceaux, puisqu'il avait cessé de l'être, mais nous avions conservé, il avait conservé en tant que président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, des fonctions importantes, et de toute façon, ce qui avait été lancé de son époque a continué, d'où l'existence de ce code de procédure civile dont on va fêter le trentenaire dans les mois qui viennent.
Alors, selon vous, François Théré, le droit n'est pas destiné aux seuls initiés. Consciemment ou non, juristes ou profanes, nous participons tous à son application et à son développement. Alors, la presse quotidienne peut et doit, écrivez-vous, contribuer puissamment à la transmission du savoir juridique. Le droit sert les médias, il est normal qu'ils s'en servent, dites-vous avec beaucoup d'humour. C'est ce que vous avez fait pendant 30 ans. En écrivant dans les colonnes du Figaro, en qualité de chroniqueur juridique, votre livre, paru chez Dalloz, est un recueil justement d'articles parus dans les colonnes du Figaro et qui font la preuve que le droit a conquis une place grandissante dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne. Alors, quels sont les articles qui vous reviennent encore en mémoire, ceux qui vous ont suscité peut-être le plus de réactions, ceux qui ont été déterminants ensuite par rapport à votre parcours et cheminement personnel?
Ben, je pense au premier de ces articles, un des tout premiers. C'était un article sur les droits d'auteur et Solzhenitsyn. Et c'est drôle, pourquoi j'y pense tout d'un coup, c'est parce que je lis en ce moment ces mémoires qui sont passionnants et que cela avait marqué le début d'une collaboration qui a dû aboutir à 350 ou 370 articles au Figaro. Le livre ne comporte qu'un certain nombre d'articles que j'ai choisi parmi d'autres. Mais c'était d'abord les articles aussi sur les essais nucléaires dans le Pacifique, sur un certain nombre de problèmes qui j'ai ordonné autour du débat sur les libertés, du débat sur la Constitution, sur le droit international, sur un certain nombre de questions qui tournaient quand même autour de problèmes de droit public. Il faut dire que parallèlement, cet attrait pour la communication du savoir, je l'ai expérimenté d'une autre manière. Car après avoir quitté la chancellerie, j'ai senti que je ne pouvais pas être uniquement universitaire. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, je suis devenu progressivement conseiller scientifique d'une des grandes maisons d'édition françaises que je fais toujours, à l'heure actuelle, depuis 40 ans. C'est-à-dire une institution, les éditions du Juris Classeur, dont je suis le conseiller en scientifique. Cela m'a permis de comprendre ce que c'était qu'une entreprise privée, et surtout la diffusion du savoir juridique. Et d'autre part, alors, la presse, j'y suis venu par hasard, mais j'ai pris goût pour une raison très simple aussi. C'est un effort de construction intellectuelle. L'universitaire qui fait un exposé, qui écrit un article, va lentement. C'est-à-dire qu'il arrose d'abord la pelouse, il émet les indications, il arrose peut-être trop la pelouse, pas la fleur uniquement, et puis progressivement il parvient à une conclusion. Et ça a été très dur, parce que la démarche journalistique est l'inverse. Et qu'il fallait, d'abord, première difficulté, faire des articles courts, car si les articles ne sont pas courts, ils ne sont pas lus. Et deuxièmement, il fallait bien voir que le droit n'est pas une denrée journalistiquement comestible. et que par conséquent, il faut se débarrasser du langage juridique dans ce qu'il a de trop technique. Et c'est pourquoi faire un article de 3 feuillets, 25 lignes, 60 signes à la ligne, qui me donnait au début 3 jours pour le rendre comestible et compréhensible pour le commun des mortels, m'a pris ensuite 2 jours, puis ensuite 1 jour, mais, et puis ensuite 1 demi-journée, mais vraiment en me servant de, en allant très vite et de manière très fatigante. Mais les échos ont été bons. Je n'avais pas uniquement des correspondances, des lettres, un peu de tout genre, plutôt de personnes âgées. J'étais lu par nombre de vieilles dames qui m'envoyaient des lettres qui m'intéressaient beaucoup. Mais il y a eu les débats sur la peine de mort, il y a eu les débats sur la Constitution, sur les changements opérés dans la Constitution en 1973, 74 plutôt. Il y a eu les guerres quand même du Koweït, les guerres, l'action chimique de Saddam Hussein. Et finalement, on s'aperçoit que de tous côtés, de quelque branche du droit qu'il s'agisse, le droit a une place et une présence beaucoup plus grande dans notre société qu'il y a 50 ans. Ça, c'est incontestable. Et c'est pas forcément un bien, je ne sais pas. On dit parfois que les gens heureux vivent comme si le droit n'existait pas. Et peut-être que, en faisant trop de droit, le droit est né. Le juriste est mal vu dans une société. Le juriste, c'est l'empêcheur de tourner en rond. C'est celui qui est semblable à ses enfants, que l'on détecte dans les États américains, en leur donnant des jeux de cubes et en leur demandant de construire des villages. Et ça existe dans certains États. On va voir l'orientation des enfants. Eh bien, ceux qui seront des poètes mettent des arbres, mettent des fleurs. Et pour savoir si ce sont des bons juristes, ce sont ceux qui mettent des barrières. C'est cela, mais...
Des barrières que vous avez renversées, vous-même étant jeune, au scout. Ouais. Vous nous avez raconté ça tout à l'heure.
Oui, ouais, mais voyez-vous, cette présence du droit appelle un effort de communication qui n'est pas suffisant, à mon avis. Et qui n'est pas suffisant parce qu'il est très difficile. Peut-être que l'informatique, en se développant, résoudra les problèmes.
Je voudrais faire lecture d'un texte qui parlera à toutes les générations confondues. Un texte sur la liberté. Liberté, ce mot souvent trahi, écrivez-vous dans les colonnes du Figaro le 13 mai 1977. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Mot liberté, la soif qu'elle inspire est toujours exaltante et son discours est plus porteur d'espoir que le silence et l'oppression. Encore faudrait-il ne jamais oublier qu'elle est un bien fragile et qu'à vouloir trop souffler sur la flamme, on risque de l'éteindre. La liberté a toujours eu, aux yeux des hommes, de multiples significations, et si l'on devait en isoler une seule, cela pourrait être celle élémentaire et instinctive qui s'exprime ainsi. Être libre, c'est celui qui n'a besoin de personne, ni de quoi que ce soit. L'ermite, dans sa retraite, Robinson sur son île, se rapproche de cet idéal, mais cette liberté extrême ne se découvre qu'au prix de la solitude. La solitude, on en reparlera tout à l'heure. Alors, quand on s'approcha du XXe siècle, la liberté entraîna dans son sillage la revendication de multiples droits. Droit à l'instruction pour éveiller les citoyens à la conscience de leurs prérogatives, droit de se syndiquer pour mieux lutter en faveur des intérêts professionnels, droit de grève aux mêmes fins, etc. Ensuite, sous le pavillon de sa liberté, vinrent se ranger de nouvelles exigences, un certain nombre de garanties positives et d'ordre économique. Droit à la santé, droit au travail, droit à la solidarité contre les calamités rompant l'égalité de tous devant les suggestions publiques, droit à la non-discrimination, etc. Alors vous dites, l'idée de bonheur dont parlait Saint-Just s'est de plus en plus déplacée. Au bonheur d'être soi-même se substitue le bonheur d'être comme les autres. Est-ce ainsi que les Français veulent recommencer leur vie, qu'ils retiennent, pendant qu'il est encore temps, le message de Rousseau ? Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté en captive ainsi la volonté même.
Oui, je pars d'Éluard pour finir à Rousseau, mais je crois que ça s'est amplifié, ce mouvement. c'est que le besoin de consacrer une nouvelle liberté a été refoulé par l'idée d'assurer des égalités plus grandes. Toujours le conflit entre la liberté et l'égalité, mais que tout le combat contre les discriminations va entraîner des conséquences qu'on n'arrive pas véritablement à saisir et à décrire de manière suffisante. La lutte contre les discriminations s'accompagne aussi de la reconnaissance de quotas. C'est le problème des discriminations positives. Mais de proche en proche, à vouloir protéger toutes les minorités qui soient, tout le monde fera bien partie d'une minorité et on n'aura protégé personne. Et je crois que le Haut Conseil contre les discriminations, de l'égalité qui a été créé, tout ce qui concerne même le droit du mariage, de ne pas avoir de discrimination à cause de l'orientation sexuelle, que tout cela se produit dans un contexte où on ne sait pas si ceux qui réclament le droit à la différence réclament en même temps le droit à l'indifférence. Ils veulent être différents, mais ils veulent être traités comme les autres ou différemment des autres. Il y a là un contexte qui ne facilite pas et qui rejoint un peu ce que j'évoquais à l'époque, le droit à l'avortement, qui est reconnu, mais le droit à l'enfant. Oui, alors, où sommes-nous dans une société schizophrène? Je n'en sais rien. Le droit à la pluie, le droit au soleil. Le droit à la chaleur, mais le droit aussi au froid.
Trop de droits nuit ?
Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs un slogan qu'on voit toujours partout. Trop de droits tue le droit. C'est certain. Il y a une sagesse qui consiste à ne pas mettre de droits partout. Mais c'est une sagesse difficile. Il faut savoir si l'on est optimiste ou pessimiste.
Et vous ?
Je dois être double. Je dois être plutôt, pas l'Orient m'a marqué, c'est pas plutôt réservé. En l'état actuel de notre société, on en met trop. On en met trop et c'est plus du droit. Quand vous avez deux lois d'une même jour, dont l'une abroge l'autre, c'est tout. Et alors, vous comprenez, est-ce que la loi est faite pour être promulguée ou pour être appliquée ? Ce que je veux, c'est que les lois soient appliquées. Et qu'elles correspondent quand même à l'opinion. Et comme ce n'est pas le cas, ben je dis on en met trop. Il faut me faire machine arrière. Et je crois que malheureusement, l'évolution dans le droit communautaire ne facilite pas les choses.
Un peu plus de bon sens.
Ah oui, un peu. Et puis peut-être essayer de donner, de trouver le sens de d'autres normes de comportement. Que le seul droit, il n'y a pas que cette norme de comportement et c'est là que se situe la difficulté en l'absence de valeur. À partir du moment où on considère que tout ce qui est posé comme règle de droit se justifie par soi-même, il n'y a plus de droit. Et quelles sont les valeurs derrière? Alors ça,
c'est le philosophe qui nous parle du droit.
Mais vous savez, je voulais vous dire deux mots. C'est que j'ai été, après l'Afrique et l'Asie, j'ai été au Pacifique faire un code. Et alors, la leçon du Pacifique est encore une leçon pour le sociologue et l'ethnologue qui est passionnant. Tout est dans tout.
Nous retournons vers la 9e symphonie, interprétée par le Grand Orchestre Philharmonique de Berlin, placé sous la direction d'Herbert von Karajan. François Terré de l'Académie des sciences morales et politiques est aujourd'hui l'invité de Canal Académie et de son émission Parcours. François Terré, pour préparer cette émission, je vous ai demandé de bien vouloir choisir au choix d'un texte littéraire qui vous a plu, marqué, charmé, séduit, construit. Et quel est votre choix ?
C'est un poème en prose de Mallarmé.
Pourquoi ?
Parce que il m'avait été un jour de mon enfance suggéré, conseillé de lire par ma mère, qui avait beaucoup d'influence sur mon orientation intellectuelle, qui lisait beaucoup. Je lis beaucoup aussi. Je lis au demeurant un livre par jour, quoi. C'est le soir. Je ne regarde pas tellement la télévision. Et c'est un texte qui est demeuré ancré en moi. J'ai hésité quand vous m'avez demandé. J'aurais évidemment probablement aussi un texte de Pascal, mais j'ai préféré quelque chose qui correspondait à un fil conducteur dans mon existence, et on retrouve un certain nombre de thèmes qui finalement, inconsciemment, corroborent un peu ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure.
Nous vous écoutons.
Depuis que Maria m'a quitté pour aller dans une autre étoile, laquelle, Orion, Altaïr et toi, verte Vénus, j'ai toujours chéri la solitude. Que de longues journées j'ai passées seul avec mon chat. Par seul, j'entends sans doute un être sans matériel, et mon chat est un compagnon mystique, un esprit. Je puis donc dire que j'ai passé de longues journées seul avec mon chat et seul avec un des derniers auteurs de la décadence latine, car depuis que la blanche créature n'est plus, étrangement et singulièrement, j'ai aimé tout ce qui se résumait en ce mot « chute ». Ainsi dans l'année, ma saison favorite, ce sont les derniers jours alanguis de l'été qui précèdent immédiatement l'automne. Et dans la journée, l'heure où je me promène et quand le soleil se repose avant de s'évanouir, avec des rayons de cuivre jaune sur les murs gris et de cuivre rouge sur les carreaux. De même, la littérature à laquelle mon esprit demande une volupté sera la poésie agonisante des derniers moments de Rome, tant cependant qu'elle ne respire aucunement l'approche rajeunissante des barbares et ne bégaye point le latin enfantin des premières proses chrétiennes. Je lisais donc un de ces chers poèmes, dont les plaques de phare ont plus de charme sur moi que l'incarnat de la jeunesse, et plongeait une main dans la fourrure du pur animal quand un orgue de barbarie chanta languissamment et mélancoliquement sous ma fenêtre. Il jouait dans la grande allée de peupliers dont les feuilles me paraissent mornes même au printemps, depuis que Maria a passé là avec des cierges une dernière fois. L'instrument des tristes, oui, vraiment. Le piano scintille, le violon donne aux fibres déchirées la lumière. Mais l'orgue de barbarie, dans le crépuscule du souvenir, m'a fait désespérément rêver. Maintenant qu'il murmurait un air joyeusement vulgaire et qui mit la gaieté au cœur du faubourg, un air suranné, banal, d'où vient que sa ritournelle m'allait à l'âme et me faisait pleurer comme une ballade romantique, je la savourais lentement et je ne lançais pas un sou par la fenêtre de peur de me déranger et de m'apercevoir que l'instrument ne chantait pas seul.
Alors, laissez-nous deviner les points communs. L'amour de la solitude ?
Non, pas exactement la solitude, parce qu'il dit bien qu'il n'est pas vraiment seul. L'amour du silence. L'amour du silence, je suis peut-être un malade du silence. La solitude telle que je l'aperçois à travers cela, c'est sans doute le sentiment qu'on ne peut pas trouver beaucoup d'êtres au monde qui vous fassent sortir de la solitude. Bien sûr, je suis marié depuis 50 ans et mon épouse est justement l'exemple contraire. Il y en a d'autres, certainement. Mais cette solitude, si vous voulez, nous rejoignons le droit ici. Car le droit est, je vous parlais de la communication, nous sommes en train de faire œuvre de communication. Et c'est au fond cette idée que j'exprime à propos du droit, mais qui est probablement vrai aussi à propos de l'art, de la musique, c'est que le droit, c'est un contact entre les solitudes. Et que c'est à travers ce contact entre les solitudes qu'on comprend en quoi la solitude peut être créatrice. On peut se parler à soi-même. Le juge unique qui juge converse avec lui-même, dialogue avec lui-même. Et même, je dirais que quand ce qui me passionnait, c'est de faire un cours à Assas devant 1200 étudiants, de pouvoir faire ce cours par le regard et pas seulement par la parole. Et c'est pourquoi d'ailleurs je n'enseignais pas avec des notes, je me promenais dans l'amphithéâtre, je m'asseyais au milieu des étudiants, je faisais parfois le saltimbanque, je montais sur les tables. Mais ils étaient là, ils ne parlaient pas, et c'était peut-être une solitude du silence, plus que la solitude pure et simple, qui me permettait de communiquer avec eux et de voir à leur regard, les uns les autres, si ça passait ou si ça passait pas. C'était fatigant. C'était beaucoup plus fatigant que de psalmodier des papiers qu'on tourne. Mais il est évident que c'était un exercice qui m'a fasciné jusqu'au dernier temps de ma carrière, parce que j'ai enseigné pendant 43 ans. Alors, c'est cela. C'est là que je retrouve la solitude. Je peux rester 8 heures aujourd'hui à mon bureau, dans le silence, et travailler. La lecture est une solitude à deux.
Vous avez, au cours de cette émission, prononcé le mot de chute. Et là, il en est fortement question. La chute et pas les commencements.
Ah, je vais... c'est pas seulement La chute de Camus ou le film La chute qui est fabuleux. Mais c'est autre chose. C'est la chute, mais c'est l'automne. C'est la chute des feuilles en automne. Et parmi mes caractéristiques, je suis complètement daltonien. Et c'est héréditaire d'ailleurs. Plutôt les hommes qui en souffrent,
transmis
les femmes
par les
qui transmettent.
Ouais. Oui, merci. Transmis aux hommes par les femmes.
Oui, en fait, il paraît qu'il y a des femmes. Bon. Ah. Et alors, c'est ce qui fait que ma vision des couleurs est différente. Est différente, mais c'est le vert qui est en cause. Le vert et ses couleurs avoisinantes. Pas le rouge, je vois. Et ce sont les couleurs de l'automne. Ce sont les couleurs de l'automne qui font d'ailleurs que les daltoniens voient des tas de choses en automne. Et d'ailleurs, quand ils regardent des tableaux dans les musées, j'adore les musées, ils les voient peut-être différemment. Mais c'est cette multiplicité des couleurs de l'automne qui est incontestable. Puis alors, il y a autre chose, c'est que peut-être que l'automne, déjà, ça jouait. L'automne est pour moi une saison qui n'est pas triste. Ni les cimetières, ni les saisons comme l'automne ne sont tristes. Elles ne sont pas tristes, et je dirais même que pour qui peut avoir des risques de dépression et d'état dépressif, je considère que le printemps est anxiogène. Et pourquoi l'est-il ? Pourquoi l'est-il ? C'est l'approche de l'été, d'une rupture. Qu'est-ce que cela va devenir ? Et puis surtout, c'est peut-être l'habitude de l'universitaire qui commence l'année en octobre et qui la termine en juin. C'est pas l'année civile. L'universitaire ne vit pas sur l'année civile. L'universitaire vit sur la vie universitaire avec ses vacances.
François Théré, le droit est-il une des réponses dans la perspective de travailler un monde moins injuste, plus harmonieux, moins guerrier, plus pacifié ?
Je raisonnerai en occidental, parce que si je raisonnais en oriental, je dirais que c'est le droit est un pis-aller qui est fait pour les barbares et les étrangers. C'est la tradition confucianiste chinoise. Non, je pense que le droit est fondamental pour l'amélioration du monde. Non pas le droit mondialisé, parce que le droit pénal international n'est pour moi que le droit des vainqueurs, et n'a jamais été que le droit des vainqueurs. Et puis il ne faut pas avoir un droit mondialisé, parce que ce qui dit droit mondialisé dit un droit avec un État mondial. Et je n'en veux pas, à aucun prix, parce qu'un État mondial, s'il devient totalitaire, c'est la fin du monde. Et pourquoi ? Donc, ce n'est pas ça. Mais j'attends du droit, au fond, la justice, dit Leibniz, c'est la charité du sage. Et c'est cela que l'on doit tendre à réaliser. Et d'une manière circulaire, il est très difficile de définir le droit. On ne le définit pas bien parce qu'il n'a pas une unité foncière. Il est ambivalent. Il est né de deux sources fondamentales dans l'histoire. Il est né du culte des morts. L'origine théologique du droit n'est pas négligeable, mais il a été nourri par l'échange entre les vivants. Et c'est cette dualité qui explique la difficulté de le définir et de trouver un équilibre. Il est forme d'équilibre et il est forme aussi de compréhension des conflits entre les hommes. Car on dit toujours que le droit est l'instrument de la justice, c'est certain. Mais que le droit est forcément un instrument de paix. C'est vrai, c'est sa fonction irénique. Seulement, c'est quand même le droit qui, en reconnaissant des droits aux uns et aux autres, crée les conflits. Et c'est précisément parce qu'il les crée qu'il est en même de les résoudre. Voilà l'idée qui apparaît, étant observé que la diversité des droits est une forme de diversité des cultures, que le droit est l'instrument d'une culture, et que par conséquent, l'alignement, le nivellement européen m'inquiète.
François Théré, merci d'avoir participé à Parcours aujourd'hui devant les micros de Canal Académie. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.